Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelles sont les normes d'aménagement d'un forage d'eau? On en parle aujourd'hui avec l'honorable Dominique Soa. Il est administrateur délégué de l'ONG Action pour le développement des infrastructures en milieu rural, ADIR en sigle. Honorable Dominique Soa, bonjour.
Bonjour mon frère Kacham.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service qui s'intéresse au forage d'eau. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler du phénomène perte des cotes des étudiants. Quelles sont les causes et solutions? Ça arrive souvent qu'un étudiant perde les cotes à l'université lors de l'affichage des résultats. Alors, on n'a pas pu délibérer son cas. Bon, parce qu'il y a des cotes de l'examen ou des TP ou des interrogations qui manquent. Eh bien, on en parle dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à ce magazine, appelez-nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Vous pouvez également poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde, Marcel Ngombo assure la coordination, Tati Mapoukou est à la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Bien, à la suite des difficultés d'accès à l'eau potable, de nombreux ménages recourent aux eaux souterraines. À Kinshasa, par exemple, des forages d'eau sont de plus en plus aménagés dans les parcelles, même dans la périphérie de la ville, pour avoir de l'eau potable, parce que les gens ont des difficultés d'accéder à l'eau potable. Alors parfois, les gens aménagent ces forages d'eau sans respect des normes des constructions, et cela expose à la longue les consommateurs à d'autres problèmes de santé, selon les experts. Alors, quelles sont les règles et précautions à observer dans l'aménagement d'un puits, d'un forage d'eau? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit de l'honorable Dominique Soa. Il est administrateur délégué de l'ONG Action pour le développement des infrastructures en milieu rural, ADIR en sigle. Honorable Dominique, encore une fois, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Alors, c'est quoi? On parle souvent de forage d'eau. De quoi s'agit-il?
Le forage d'eau, c'est un ouvrage qui permet de capter les eaux souterraines. Ce n'est que ça comme... il s'agit de faire un trou dans le sol, de l'équiper, le protéger, afin de recueillir les eaux qui sont dans notre sous-sol. Mais il y a des normes qu'il faut respecter pour que l'eau devienne soit acceptable pour la consommation des humains. Bien sûr, ce sont des ouvrages que l'on réalise généralement pour l'eau de consommation, mais aussi également dans les mines, on fait des forages pour abattre les eaux des mines afin de permettre l'exploitation minière. Donc, je suppose que le débat d'aujourd'hui, la discussion d'aujourd'hui, tourne essentiellement sur la question de forage pour l'eau de consommation.
L'eau de consommation, exactement. Aujourd'hui, à Kinshasa, on a beaucoup plus de forages dans les parcelles parce que les gens en ont marre. La régie des eaux ne donne pas toujours l'eau à tout moment. Maintenant, c'est un phénomène fréquent. Les gens aménagent des forages chez eux à la maison.
C'est tout à fait normal. Ce n'est que la conséquence de la loi 15-026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, qui ouvre les services publics à toute personne physique ou morale dans son article 74. Donc c'est une question normale et c'est une évolution positive pour moi en tant que parlementaire parce que j'y ai beaucoup travaillé à cette loi. J'étais parmi les ténors qui ont travaillé sur cette loi et l'idée c'était de libéraliser les secteurs voyant qu'on a une expansion démographique très importante. Il fallait trouver la solution pour les habitants. Mais alors, c'est vrai qu'à chaque succès ou à chaque apport nouvel, il y a des risques. Le risque, c'est que les non-professionnels se sont lancés là-dedans au mépris des règles élémentaires pour protéger les eaux souterraines. En effet,
Ces eaux se trouvent à quelle profondeur du sol?
Cela varie essentiellement d'un point à un autre. Il s'agit des écoulements des eaux de pluie qui s'infiltrent dans le sol et qui ruissellent vers les exutoires qui sont soit les rivières, soit les sources naturelles comme on en trouve dans nos villages. Maintenant, la question c'est la profondeur varie d'un point à un autre selon le point où on se situe géographiquement par rapport au niveau d'écoulement de ces eaux. Et donc, si je prends la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa est divisée en deux zones. On a la zone basse, on a la zone haute. La zone basse comprend par exemple la commune de la Gombe, la commune de Ngiringiri, Barungu,
Bandalungwa,
Kitambo,
ça, c'est
Lemba,
la zone basse.
Ngaba, vous allez jusqu'à Kimbanseke, c'est la zone basse.
Oui.
Mais vous avez également la zone collinaire qui est la zone comme Mongafula, Ngaliema, une partie de Ngaliema. Vous avez aussi...
du côté de l'université de Kinshasa.
Oui, voilà, exactement. De ce côté-là, ça s'appelle Mongafula.
Mongafula,
vous avez
toujours.
La commune de Nsele, du côté de Bouma, très loin, vers la lisière. Et vous avez, bien sûr, la partie du plateau de Batéké, qui sont des zones collinaires. Alors,
recueillir les eaux souterraines, ça ne sera pas de la même manière.
Non,
par rapport à ces zones-là.
Le profondeur vont varier. Par exemple, dans la ville basse, généralement, les puits ne sont pas très profonds. On arrive, selon certaines études et mon expérience personnelle, il y a des zones marécageuses. Si vous allez en Gaba, l'eau est superficielle. Mais cette eau-là n'est pas bonne à consommer. Et elle n'est pas bonne à prendre. Il faut l'isoler lorsqu'on fait un forage afin d'aller vers rechercher les nappes un peu plus profondes et qui sont, elles, protégées des contaminations. Parce que le plus grand danger, et c'est là le hic, le plus grand danger, c'est qu'on va dans des communes comme Ngiringiri ou Barumbu, les gens creusent depuis dans des parcelles à une distance très faible des latrines, qui ne sont pas des latrines protégées, qui n'ont pas un système de protection de pollution de la nappe, et qui ne sont pas situés à une distance réglementaire. À ce moment-là, le risque de contamination est très important, et ceux qui font ce travail oublient que l'autoproducteur, c'est-à-dire celui qui fournit de l'eau, doit pouvoir faire les analyses nécessaires avant de délivrer l'eau aux consommateurs, ce qui n'est pas toujours le cas.
Bon, si je constate par exemple que la régie des eaux ne me donne pas de l'eau, je désire avoir un forage chez moi. Alors, je procède comment? Qui contacter? Je fais comment?
Bon, selon la loi relative à l'eau dont je viens de vous parler, les références, on a libéralisé les secteurs. Il faut entendre par là deux types de consommation. Vous avez la consommation domestique, qui, elle, n'est pas soumise ni à une autorisation, ni à quoi que ce soit, mais vous avez l'utilisation commerciale de l'eau. À ce moment-là, vous avez besoin d'avoir une autorisation de l'autorité compétente qui gère la ressource en eau souterraine, en l'occurrence, c'est le ministère de l'Environnement.
Voilà, là, c'est pour des besoins commerciaux.
Là, c'est pour des besoins commerciaux et industriels.
Et industriels. D'accord. Et si, par exemple, un particulier, dans un ménage, je veux forer pour avoir de l'eau, alors j'appelle des jeunes gens, on vient trouver et voilà, c'est tout.
Je vous ai dit que par rapport à la loi, vous êtes obligé, vous pouvez le faire sans demander
l'autorisation.
Une autorisation.
Oui.
Vous pouvez tout le faire, seulement faire une déclaration, parce qu'il faut quand même que les autorités sachent qu'il y a un puits, afin de surveiller les niveaux de la nappe, parce que plus tard, le pays doit pouvoir surveiller si les rabattements de la nappe qui circulent à travers un territoire atteint des seuils critiques. Mmh. Et il faut une déclaration de cela. Mais vous n'êtes pas soumis à des taxes ou autre chose.
Oui. Est-ce qu'il n'est pas important de faire appel à un spécialiste qui peut d'abord estimer la profondeur,
bien
le niveau
sûr,
de la nappe?
Bien sûr qu'il faut faire appelle un spécialiste comme nous autres qui avons cette qualification-là, mais aussi bien d'autres. Mais également, il faut noter que dans la partie basse, il y a tellement de forages qui ont été réalisés, dans la ville de Kinshasa par exemple, qu'on n'a plus besoin de chercher un spécialiste parce que on a les références de ce qui est fait. Mais par contre, dans d'autres endroits du pays, il faut un spécialiste qui doit vous dire à quelle profondeur votre forage doit aller pour pouvoir pénétrer dans la nappe. Et pour ça, il y a deux types d'examens, il y a deux types d'études. Il y a l'étude géophysique qui vous permet de déterminer à quelle profondeur se situeraient les anomalies susceptibles de contenir l'eau. Mais il y a aussi les études visuelles par rapport à l'examen de source. On peut voir les formations dans lesquelles les eaux sortent et à quel niveau altitude celle-là sort. Et on peut, à partir de ces éléments, comparer à quelle profondeur on doit aller. Et donc, ça, c'est nécessairement des gens qui sont outillés qui doivent le faire.
Mmh. On va accueillir les auditeurs. Il y a Grégoire Moulamba qui nous appelle des Kananga. Grégoire Moulamba, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis bonjour aussi à l'invité. Je salue aussi tous les invités, tous les auditeurs de la radio Okapi. Je vous appelle depuis la province de Kassai Central.
Grégoire, quelle est votre question par rapport à l'aménagement des forages d'eau?
J'ai quelques questions adressées à l'invité. Aujourd'hui, c'est n'importe qui veut construire une bonne fontaine, il suffit juste qu'il y ait des moyens. Alors, à ce sujet, j'aimerais demander à l'invité de me répondre à ces questions. La première question, c'est de savoir qui a le droit de construire une bonne fontaine et où est-ce qu'on doit construire cette dernière. La deuxième question, quelle va être la profondeur d'une bonne fontaine? Et aussi, est-ce que cette eau de la fontaine peut être vivable? Parce que dans le quartier où moi j'habite, à Tamaï, dans la commune de Kanan, l'année passée, on avait construit une bonne fontaine dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République, Félix Campagne Tshisekedi. Nous avons salué cette aide sociale. Et nous avons commencé à consommer cette eau. Nous avons même dit cette eau. Mais après 3 mois, les gens qui nous faisaient vendre cette eau viennent nous dire que non, ce n'est pas une bonne eau à boire. Nous devons juste en profiter pour faire certains travaux. Nous avons été surpris, étonnés même. Nous leur avons demandé, mais vous saviez que cette eau n'était pas bien. Pourquoi vous nous avez laissé pendant 3 mois en train de consommer cette eau? Ils nous ont dit que non, vous avez vu, l'eau a été trouvée à une seule distance. Donc ce n'est pas une eau, ce n'est pas une eau potable que vous devez consommer. Et nous avons été vraiment déçus de la réponse que ces gens nous avaient donnée. Pourquoi vous demandez l'idée à quelle profondeur est-ce qu'on peut trouver une bonne eau potable? Quand on veut construire une bonne fontaine. C'est ça, moi, quelques préoccupations que j'avais.
Merci. Merci, Grégoire Moulamba de Kananga. Mathieu Kassi, vous êtes à Beni. Bonjour. Mathieu Kassi de Beni, bonjour.
Oui, merci pour la parole nous accorder. Moi, je dirais que par rapport au respect, donc, pour qu'on puisse construire moi, je suis en train de penser que il faut que on puisse avoir des moyens conséquents. Et quand on a des moyens, et il faut aussi qu'on creuse en profondeur. Donc, le puits, il va donner de l'eau. Et à ce niveau, moi, il m'arrive des fois, je n'arrive pas à mettre une différence entre cette eau qui est ici du forage et l'eau qui est de la régie des eaux nous produit, parce que on trouve que cette eau n'a pas aussi des difficultés à la santé. Et c'est comme ça, peut-être l'invité va essayer de m'éclairer là-dessus. Mais aussi, je déplore que ce travail est souvent fait par les gens qui ne sont pas attitrés, qui n'ont pas de qualité, parce qu'ils passent dans des parcelles et peuvent vous proposer ce travail. Et si vraiment, comme nous savons les difficultés par rapport à la distribution de l'eau par la régie de l'eau, et directement, si on a des moyens, de l'argent, on propose les messieurs qu'ils puissent venir construire un forage d'eau dans la parcelle. Et alors, ma préoccupation, c'était de savoir si le forage d'eau peut durer combien de temps. Et si aujourd'hui, je peux le faire aujourd'hui, est-ce que dans les années qui vont venir, ça sera toujours une eau de qualité? Et peut-être aussi, je voulais savoir si il faut combien de mètres de profondeur pour qu'on puisse s'assurer que à ce niveau, on aura une quantité un peu favorable de l'eau.
Bien, merci Mathieu Cassi depuis Béni. Vous voulez également participer à cette émission, appelez au 081-890-63-94. Honorable Dominique Sawa, vous avez suivi la première question de Grégoire de Kananga qui veut savoir qui a les droits de faire un forage et à quelle profondeur on peut trouver l'eau potable. Il a donné l'exemple d'un forage qui était réalisé d'une bonne fontaine, mais après 3 mois de consommation, on leur dit non, arrêtez de prendre cette eau parce qu'elle n'est pas de bonne qualité.
Exactement. D'abord, je voudrais ramener les auditeurs, et c'est important parce que dans notre pays, très souvent, les gens ne font pas attention aux lois qui sont votées par le Parlement. Souvent, ils font attention aux lois qui sont à caractère politique, mais pas à caractère de développement et de réglementation de certains services. La loi relative à l'eau dit en son article 74 ce qui suit. Le service public de l'eau est ouvert à toute personne physique ou morale. Donc la loi a déjà tranché que toute personne physique ou morale peut entreprendre dans le domaine du service public de l'eau. Le service public de l'eau, c'est un service qui est adressé essentiellement pour la consommation domestique et pour la population. Donc c'est ouvert. Donc il n'y a pas à poser des questions, qui peut le faire, qui ne peut pas le faire.
C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde, ça c'est l'article 74. Maintenant, par rapport à ce que l'auditeur de Kananga a dit, c'est tout à fait logique. La loi prévoit, en son article 80, ce qui suit, toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l'approvisionnement en eau potable, s'assure que l'eau est conforme aux normes de potabilité. Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de sa qualité. Un arrêté ministériel ayant respectivement la santé, publique la détermination des normes dans leurs attributions, fixe les normes de potabilité. En ce qui concerne cet article, nous utilisons pour le moment les normes de l'OMS. Et donc, celui qui fait le forage a l'obligation, dans un premier temps, de faire l'analyse de la qualité de l'eau.
Et pour faire cette analyse, quelles sont ces normes de potabilité de l'eau?
Elles sont nombreuses, je ne les ai pas en tête, mais elles sont nombreuses parce que il y a l'analyse physico-chimique qui détermine les matériaux ou les métaux qui sont dissous dans l'eau. Sachez que l'eau dans l'écoulement souterrain, quand il coule, il y a des métaux qui se dissolvent là-dedans. Et donc, il y a des métaux dissous. Et on peut avoir des métaux dangereux comme le plomb, comme le zinc, comme d'autres métaux qui doivent être dans des proportions fixées par les normes de l'OMS, qui sont les normes internationalement reconnues.
Donc on peut par exemple visiblement regarder une eau, elle est claire, mais
elle n'est pas potable.
Mais elle n'est pas potable.
Oui, il faut pour ça aller vers les institutions qui sont chargées de l'analyse de la qualité. Dans l'autre cas de notre pays, la certification, c'est l'Office congolais de contrôle, l'OCC. Et puis, deuxième analyse, il faut faire une analyse bactériochimique. Celle-là, vous pouvez le faire dans un laboratoire, soit d'une université reconnue, soit de l'INRB, et qui peuvent déterminer s'il y a des germes comme des coliformes à nombre élevé qui peuvent être dangereux pour l'organisme humain. C'est pourquoi il est nécessaire que chaque fois que quelqu'un fait un forage, j'attire l'attention de ceux qui font le forage, de se prémunir de cela, parce qu'après il ne faut pas qu'ils pleurent s'il y a des problèmes de santé publique qui sont causés par la consommation de l'eau impropre à la consommation.
Donc ils doivent toujours prendre des échantillons, aller au laboratoire.
Ils doivent prendre des échantillons, les faire examiner et disposer d'un certificat. Parce que le comportement des eaux souterraines varie en fonction de la pollution que l'homme mène. Donc, dans le cas de Kananga, par exemple, là où notre auditeur a parlé, il se pourrait que le forage était dans les eaux superficielles. Parce que, comme je l'ai dit, ici à Kinshasa, si vous forez en Guiringuiri, vous trouverez l'eau à moins de 10 mètres. Et cette eau...
Donc, on peut dire qu'à moins de 10 mètres, c'est déjà une eau superficielle.
C'est déjà superficiel. Oui. C'est suspect parce que les normes de l'OMS, quant à l'origine de la potabilité, dit ceci... Lorsque la source de pollution est située verticalement en un point donné, il faut compter 11 mètres, 7 mètres plutôt, et 11 mètres en horizontal selon le courant dans la direction dans laquelle l'écoulement s'est fait. Et ça, c'est pas celui qui fait le forage qui doit les déterminer. C'est un hydrogéologue qui doit
déterminer cela.
Qui doit voir où est-ce que la nappe coule, dans quel sens. C'est pourquoi, par prudence, il est nécessaire de s'éloigner de fosses d'aisance ou de toilettes,
des
toilettes non protégées, qui sont depuis simplement ouvertes, afin de protéger la ressource. Parce que non seulement on pollue le puits qui est là, mais on peut aussi polluer les autres puits ou éventuellement toute la nappe. Et c'est arrivé dans certains pays. Donc il faut respecter ces normes-là.
Donc on peut dire qu'une eau potable, on la trouve au-delà des 10 mètres
de profondeur. Il faut la trouver au-delà des 10 mètres et dans des conditions que je viens d'énumérer, les conditions physico-chimiques. Parce qu'il y a des pourcentages qui sont attribués sur chaque millilitre d'eau. On doit avoir autant, au maximum, de tels métaux. Autant de tel métal, autant de tel... Il faut... C'est bien écrit.
Ça doit être bien déterminé.
Et ça doit se faire par une institution agréée. Dans le cas du Congo, c'est l'Office congolais de contrôle.
L'OCC qui le fait.
L'OCC qui doit le faire. Et beaucoup de gens ne le font pas. Surtout ici à Kinshasa, c'est un peu anarchiquement que les gens font de forage et ne font pas contrôler leur eau. Et ça, c'est en violation de cet article que je vous ai lu tout à l'heure, mais aussi en violation de la loi, parce que la loi prévoit des peines lorsqu'on ne respecte pas ces normes-là. En son article 121, la loi prévoit des peines lourdes lorsque on fournit de l'eau qui n'est pas conforme aux normes édictées par le pays, en l'occurrence dans notre pays, les normes de l'OMS.
Bien, donc, on va accueillir deux autres auditeurs, Batoka de Mbujimayi et Malonga de Banonouville. Batoka, bonjour.
Bonjour, monsieur Bédine Dangina Gachambe, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au forage?
Oui, j'ai deux petites préoccupations, monsieur Bédine Dangina Gachambe. Oui, la première, celle-ci. Oui, je demanderai aussi à l'invité, l'eau de forage, est-il aussi, c'est pollué? Ça, c'est la première question. Maintenant, de deux, quelles sont les conditions indigènes qui peuvent faire de sorte que l'eau des forages peut se polluer, Je vous remercie.
Merci. Malonga de Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour, Jotien, bonjour notre invité.
On vous écoute.
Je remercie beaucoup notre invité pour vos explications. Mais ici, je vois que les forages qui sont fabriqués manuellement, en tout cas, se exposer au danger humain. Pourquoi je dis? Parce que l'invité soulève l'article. La loi dit que toute personne peut faire le forage, comme il a dit là-bas. Mais je vois que le forage fabriqué manuellement, c'est-à-dire dans un village, vous trouvez quelqu'un a fait un puits chez lui, mais mal couvert. Vous verrez qu'il y a des poussins et des grenouilles. Et tout ça, il y a quelque chose, il aura beaucoup de saleté là-bas, et c'est ce qu'on va consommer. Or, l'eau, c'est la vie. Est-ce que de quelle manière là, vraiment à prévenir ou bien à garder la santé humaine. Ce que ça va laisser que chaque personne va faire de son mieux. Oh, il va puiser de l'eau qui n'est pas encore potable à la santé. Parce que nous le vivons ici. Ouvrir forage fabriqué par les ONG, comme nous sommes ici, nous aide à cela. Il fait ouvrir très très bien. Il y a une pompe. Ça c'est sécurisé. Mais à ciel ouvert ou bien on ferme, mais ce n'est pas dur garder même des enfants parvenir à tomber là et puis ils étaient ravis. Est-ce que de toute façon là, avec cette loi et tout ce que l'invité vient de dire là, peuvent vraiment donner accès à l'eau potable? Vous venez ici, vous voyez ce que nous avons suivi ici, la pollution de la rivière. La vieille Kassai,
oui.
Tout le village riverain, le long de Kassai, ont eu des difficultés pour s'approprier de l'eau potable. Alors, actuellement ici, nous sommes dans une étude, comment procéder à ouvrir ou bien à faire les travaux pour créer des forages dans tous ces villages riverains pour prévenir à d'autres situations polluantes qui peuvent survenir aussi.
D'accord. Merci Malonga. Merci. On a compris, on a retenu votre préoccupation. On va donner la parole à Safari depuis Igabarrière. Bonjour.
Bonjour à vous, monsieur Jordi. Bonjour aussi à monsieur Levita.
Quelle est votre question, Safari?
Ouais, j'ai seulement une petite question à poser à monsieur Levita. Est-ce que lors des forages, la façon dont vous parlez, il me semble qu'elle est vraiment libre. Alors, moi, c'était de savoir si lors des forages aussi est contrôlé par la régie des eaux. Est-ce qu'il y a aussi une loi sur lors des forages? Merci.
Bien, est-ce que la régie des eaux doit contrôler les forages ou pas? Joseph, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour à notre invité. Notre problème, c'est de savoir si les problèmes des forages, parfois il y a des 3 mètres seulement, tel qu'il y a un exemple juste ici. Bon, est-ce qu'avec des profondeurs pareilles, il y a la nappe d'eau vraiment approfondie?
Là-bas à Kisangani, vous avez des forages de 3 mètres seulement?
Ouais, juste de 3 mètres seulement, on trouve déjà la nappe d'eau.
D'accord. Honorable Soa.
Oui, je repartirai de la question de notre ami de Kisangani. Mm. Et je lis directement aussi à notre auditeur de Bandundu. Il faut distinguer 2 types d'ouvrages. Il y a les puits manuels, qui sont réalisés manuellement, mais il y a aussi les forages qui sont réalisés manuellement et mécaniquement. La différence entre les deux, c'est ceci. Les puits ont de forages, les puits ont des diamètres beaucoup plus gros, 1 mètre, 1 mètre 20, 2 mètres. Les forages, c'est des diamètres de 20 cm, 30 cm, 15 cm. Donc, c'est ça la différence en termes d'ouvrage. Maintenant, en termes de profondeur, comme je l'ai dit et j'insiste, tout dépend de l'endroit où on est situé. L'auditeur de Kisangani, j'espère qu'il n'est pas à Mangobo ou bien le long du fleuve Congo. S'il est le long du fleuve Congo, c'est tout à fait normal que là, on creuse, on trouve de l'eau superficielle qui n'est pas généralement pas potable. Qui n'est pas généralement, mais encore, il faudra vérifier par les laboratoires qui sont installé là-bas, je pense ici au laboratoire des cliniques universitaires de Kisangani, si elle fonctionne encore. Et donc, il faut absolument examiner cela. Mais si on n'a pas d'autres possibilités, il y a toujours le moyen de rendre l'eau potable en y ajoutant de l'eau de Javel ou du chlore, laissant reposer dans un récipient, dans des quantités qui sont déterminées, pour stériliser l'eau, si l'eau n'a pas une contamination chimique. La contamination chimique est la plus dangereuse. Et là, ça rejoint la préoccupation de l'auditeur de Bougimaï. l'auditeur de Bouchemal
qui a parlé de la pollution.
Qui a parlé de la pollution, c'est quelque chose qu'on connaît au Katanga, où on a des pollutions des eaux souterraines de, par le fait des activités minières qui polluent la nappe. Et donc, il est possible aussi que la nappe soit aussi polluée, l'eau de forage peut être polluée. Je prends surtout le cas de celui de Bouchemal, où les eaux souterraines qui sortent en Bouchemal sont des eaux qui sont dans des zones de calcaire avec des failles très importantes et donc une faible filtration. Elles sont susceptibles d'être contaminées par une activité et par des produits chimiques. À supposer, par malheur, quelqu'un déverse de produits pétroliers dans un puits et dans un forage, et ça va polluer toute la nappe parce que ça ne va pas rester statique. Ça va circuler dans les sols et donc on peut avoir une pollution de l'eau. C'est pourquoi? C'est pour cette raison que la loi, je reviens toujours à la loi parce que c'est important, l'article 80 dit que toute personne qui s'occupe de fournir de l'eau aux populations doit s'assurer de la potabilité de celle-ci et de la conformité de cela. Et ça, c'est important de
maintenir. Nous, il faut des analyses au laboratoire.
Il faut toujours des analyses. Mmh. Nul ne peut le voir. Ce n'est pas parce que l'eau est trouble. C'est comme nous avons appris en technologie en deuxième secondaire. L'eau doit être claire.
Inodore, incolore, insipide, tout ça.
C'est une bonne chose. Physiquement, on le voit comme ça. Mais on ne sait pas s'il y a du plomb. Vous savez, ici, dans notre pays, nous utilisons beaucoup de batteries. Et les batteries contiennent des plombs. Et le plomb, c'est l'ennemi juré de l'individu.
Et donc, ça, on ne sait pas le voir à l'œil nu.
On ne sait pas le voir à l'œil nu parce que c'est dissous dans l'eau. Mm. Donc, ce n'est que au laboratoire qu'on peut le voir. Et j'insiste pour ceux qui se sont lancés dans cette activité. C'est bien de gagner de l'argent. Sachez qu'il y a la vie des gens derrière et que vous devez prendre des précautions pour faire analyser l'eau. Et donc, je reviens en ce qui concerne les profondeurs. Vous savez, il y a quelqu'un de Higa Barrière, je pense, il a parlé de la comparaison eau de forage et de la régie des eaux. Je voudrais d'abord dire tout de suite que la régie des eaux n'a plus le monopole, ne peut plus contrôler la qualité de l'eau des tierces. Ne peut contrôler la qualité des tierces que le service de l'environnement et le service de l'hygiène. Ce sont les deux organismes de l'État.
Je pense qu'il y a aussi un service de l'hydraulique rurale, quelque chose comme ça.
Non, c'est autre chose. Le service d'hydraulique rurale, c'est un service, j'en suis un des promoteurs, je suis celui qui a mis en place le SNHR il y a quelques années, et donc je sais que c'est pour intervenir pour réaliser des ouvrages de fourniture dans les milieux ruraux. Mais ici, on parle de l'eau, de contrôle. Le contrôle, c'est l'environnement, c'est le ministère de la Santé qui, eux, parce qu'autorisés par la loi, fixent les normes. Alors, ce sont eux qui doivent pouvoir régler ça. Mais il y a aussi, bien sûr, maintenant, ce n'est pas encore en place, l'autorité de régulation qui n'est pas encore créée, bien que proposée par la loi. On espère qu'on aura les mesures d'application pour pouvoir mettre cela en marche. Voilà la réponse aux questions de quelques-uns de vos
auditeurs. Malonga de Bandounville nous dit que depuis la pollution de la rivière Kasaï, aujourd'hui, il y a beaucoup de forages, des puits qui sont de plus en plus aménagés parce qu'on sait que les eaux sont polluées. Les gens se lancent maintenant dans le forage.
C'est tout à fait logique lorsque l'homme, lorsqu'il est acculé, il recherche des solutions. Par le passé, on a toujours expliqué aux gens que l'eau des rivières, dans leur état brut, n'est pas bonne pour consommation humaine, à moins de la bouillir ou à moins de la désinfecter. En fait, c'est ce que fait la régie des eaux. Elle prend l'eau de l'Andili, par exemple ici à Kinshasa, elle traite cette eau pour la rendre potable.
Avec le chlore et
avec
d'autres produits.
Avec la filtration et tout, le chlore, la désinfection. Donc, elle prend une eau qui n'est pas de bonne qualité, mais elle la transforme, elle devient de bonne qualité. Dans le cas de forage, Dieu a mis des filtres importants. Si vous prenez ici à Kinshasa, dans la commune de Ndjesele, par exemple, on a des bancs de filtres qui ont une épaisseur de 30 à 40 mètres. Donc, l'eau qui passe par là, l'eau de pluie, est filtrée par ces filtres naturels que sont reconstitués dans les usines de la régie des eaux sur une épaisseur de 1 mètre, 2 mètres. Cela dépend de la qualité de la turbidité de l'eau. Donc, voilà. Donc, il faut, pour les gens de les riverains de la rivière Kasaï, et moi je suis peiné de voir que ils n'étaient pas à la base de cette pollution. C'est normal que l'on puisse implanter des forages dans leur village. Et c'est pourquoi, depuis 77, on avait créé le service national d'hydraulique rurale, dont le but était de réaliser des ouvrages de fourniture d'eau potable en milieu rural. Mais vous savez, nous avons des milliers et des milliers de villages et on n'a pas toujours le moyen de pouvoir suivre, de pouvoir réaliser des ouvrages de captage et de fourniture d'eau potable.
Honorable Dominique Soa, quels sont les risques lorsqu'on consomme une eau provenant d'un puits ou d'un forage, une eau qui n'a pas été testée au laboratoire?
Le risque, c'est d'avoir des maladies d'origine hydrique qui sont multiples. Moi, je suis pas médecin, mais vous avez par exemple avoir la diarrhée continue, avoir des vomissements, avoir une infection liée aux minéraux ou aux métaux qui sont dissous dans l'eau. Et donc, on peut avoir les cancers, on peut avoir toute une série de maladies. C'est pourquoi c'est nécessaire et on doit insister sur le fait qu'il faut que la qualité de l'eau soit contrôlée.
Bien. Alors, Malonga est revenu sur un point. Il y a certains qui couvrent le forage avec, je sais pas moi, une tôle ou bien autre chose parce que les grenouilles, les crapauds peuvent se retrouver dedans ou des larves, tout ça, et autre chose. Comment bien entretenir
Nous conseillons que chaque puits, même s'il est creusé à la main, il faut qu'il y ait un ouvrage de protection de celui-ci. D'abord parce que l'eau, lorsqu'il est en contact avec la lumière, il se développe des algues. Vous savez, il y a des organismes microbiens qui vivent, qui ne sont pas nécessairement nocifs pour la santé, mais qui sont là. Mmh. Le soleil et l'eau devient, vous voyez que ça devient verdâtre. Donc, il faut protéger la ressource contre cette lumière intense.
Du soleil.
Mmh. Et pour ça, on a plusieurs façons de le faire. On peut mettre une dalle en béton. On peut mettre un couvercle métallique. Tout dépend de la façon dont le puits est fait. Nous conseillons de faire un puits avec des parois protégées qui peuvent être en béton ou en buse ou en PVC, et de manière à ce qu'il n'y ait pas éboulement. Parce que lorsque vous prélevez dans un puits une certaine quantité d'eau, l'eau continue de venir. Et quand l'eau arrive, elle a tendance à éroder le sol. Ce qui fait que dans certains endroits, surtout au Katanga ou dans le Grand Katanga, les gens, leurs puits tarissent vite. Ils disent, ah, l'eau a tari. Mais l'eau n'a pas tari, c'est le puits qui s'est collapsé dans son fond parce que l'érosion de la venue de l'eau dans le puits a entamé la stabilité du sol et donc recouvert la nappe. C'est pourquoi nous conseillons de faire des puits qui sont protégés avec des buses en béton, avec de la maçonnerie si c'est possible, mais aussi couverts. Il faut que ça soit couvert avec une ouverture protégée afin que l'eau ne soit pas contaminée. Dans le cas de forage, ça va de soi-même. Comme des forages sont de petites dimensions, généralement on met une tête de forage qui protège l'eau et l'entrée de bestioles dans le forage.
Il y a d'autres qui sont munis de pompes où on peut...
Oui, ça c'est autre chose. Donc vous avez le forage lui-même est un ouvrage de captage des eaux souterraines ou le puits. Mais puis vous avez les appareils d'élévation de ces eaux pour élever ces eaux de là où elles sont à la profondeur et les amener au niveau du consommateur. C'est un transport vertical et pour ça on utilise des machines. Ces machines peuvent être à motricité humaine, c'est-à-dire les pompes manuelles,
les poulies,
qui sont actionnées, ou les poulies. Elles peuvent être aussi mécaniques ou électriques. Quand vous avez des pompes qui fonctionnent avec l'énergie électrique, c'est une machine élévatoire qui élève l'eau de bas vers le haut, à l'endroit où on en a besoin. La pompe.
La pompe, oui.
Motopompe signifie, c'est un terme technique qui groupe la force énergétique qui fait actionner la pompe et la pompe.
D'accord.
La pompe elle-même, vous avez des pompes électriques, elles sont actionnées par l'électricité qui n'est pas couplée à la pompe.
D'accord.
Le motopompe, c'est un moteur couplé directement à la pompe. C'est pour ça on dit motopompe.
D'accord.
Donc il y a des terminologies techniques qui sont nécessaires à être maîtrisées pour bien comprendre ce secteur de l'eau.
On va accueillir Emina Mwanda Assani depuis Bukavu au sud Kivu. Vous avez des questions et préoccupations par rapport aux normes d'aménagement des forages d'eau. Appelez-nous au 081-890-63-94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Quelles sont les normes d'aménagement d'un forage d'eau? Emina Mwanda, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous, c'est le site qui vous accompagne et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Emina?
Ma question est de savoir, je ne sais pas si le système-là de forage est devenu maintenant une nouvelle façon de servir la population avec l'eau potable. Parce que si chez nous à Bukavu, c'est une pratique qui laisse à désirer. Je ne sais pas si la régie des eaux qui a l'eau dans ses attributions, quelle est son contribution quant à ça. Ici, il y a même les habitants qui consomment de l'eau qui vient des toilettes parce qu'il suffit seulement qu'on trouve quelque part où l'eau est en train de jaillir. Là, on trouve comme ça, on trouve que c'est déjà de l'eau à boire. J'ai bien suivi l'intervention de notre invité. C'était très, très pertinent, mais ces conditions-là hygiéniques, ces normes-là ne sont pas respectées. C'est pour là de milliers à forte démographie. C'est comme le cas ici de Bukavu, ici à Bukavu, monsieur. Nous sommes en train de constater en appuyant comment les gens sont en train de consommer des eaux qui ne sont pas propices pour la donc de l'eau potable. Les gens sont en train de consommer les eaux qui ne sont pas de l'eau non potable. Et récemment, si vous avez encore attendu à Moingala, la maladie de choléra, tout cela c'est à cause de d'absence d'eau. Les gens commencent à se tailler leurs pratiques pour qu'ils soient au moins pour qu'ils soient en possession d'eau. Et c'est pour cela que vous savez que la soif, personne ne peut pas ne peut pas rester sans pour autant avoir de l'eau. C'est à cause de ça que d'abord, l'eau peut constituer un danger si et seulement si le gouvernement congolais ne prend pas charge cet aspect des choses, nous risquons d'avoir une autre maladie qui serait un peu plus dangereuse que le coronavirus. C'est pour cela que la question à l'invité, jusque-là, comme c'est la pratique qui vient de prendre d'assaut les sociales de la RDC, quels sont les conseils que l'invité peut nous donner s'il faut trouver de l'eau qui ne respecte pas de l'eau de forage, qui ne respecte pas ces normes d'hygiénie qui vient de citer là? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Parce que nous ne savons pas à quel point c'est voué pour avoir de l'eau de forage respectant toutes ces normes-là.
Bien, merci. Honorable Dominique, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, d'abord, merci, cher ami de Bukavu, une ville que je connais très bien. Je comprends la difficulté pour ce qui concerne Bukavu, qui est situé à 1460 mètres d'altitude par rapport au lac Kivu, et donc avec une densité démographique très, très, très importante. Il est vrai que dans cette partie du pays, tout le sud Kivu d'ailleurs, en partie aussi le nord, les seuls recours qui ont toujours existé étaient l'eau de source. Il y a des sources dans les montagnes qui ont souvent été captées pour être drainées par gravité jusqu'au lieu de consommation. Mais comme l'invité le sait, non, l'auditeur le sait, Bukavu, la déforestation a été importante et donc a influencé le comportement des sources. Et là, c'est un vrai problème pour ce qui concerne Bukavu. Maintenant, en ce qui concerne le conseil lorsque l'eau n'est pas potable, comme j'ai expliqué, c'est ce que fait la régie des eaux. L'auditeur de Bukavu sait bien que l'eau qui vient, qui alimente Bukavu, vient de Kabare. Et souvent, c'est une eau qui est un peu boueuse quand on est à Kabare.
Elle n'est pas du tout potable.
Elle n'est pas potable. C'est pourquoi la régie des eaux a fait des usines, une usine pour traiter cette eau afin de la rendre potable. Donc, lorsque on a l'eau qui n'est pas potable, il faut s'assurer d'abord que ce n'est pas une pollution chimique, parce que là aussi, il y a des traitements qui sont très lourds. Mais lorsqu'on parle de pollution bactériologique, l'auditeur de Bukavu se souviendra que l'axe du Graben, donc partant de Kalemi, donc j'allais dire de Malembankul, Bukama, Kalemi, Uvira, Bukavu, Goma, et parfois ça arrive au nord Kivu, au grand nord, c'est toujours assez menacé par le choléra de manière cyclique. Et d'ailleurs, mon organisation travaille à Ouvira sur cette partie de le projet pour sensibiliser.
À cause de l'eau, de la
à
qualité
cause
de
la qualité de l'eau, parce que les gens défectent dans les lacs et donc ça remonte. Le choléra est cyclique là-bas dans cette partie du pays. Et c'est pourquoi les organisations internationales ou nationales qui sont actives dans ce côté-là font ce qu'on appelle la chloration de l'eau à la prise d'eau. C'est-à-dire, lorsque vous allez chercher de l'eau, on met quelques gouttes de chlore pour désinfecter l'eau. Et ça s'est fait malheureusement.
Ça s'est fait au niveau des ménages.
Oui, ça s'est fait au niveau de l'eau lorsque vous le prenez.
Déjà la source.
Déjà la source, lorsque vous allez là, vous la prenez, il y a toujours les gens des organisations dites non gouvernementales, des ONG comme les nos autres ici, qui mettent quelques gouttes dans votre bidon. Ces gouttes de chlore permettent de désinfecter l'eau de manière bactériologique, mais pas chimique. J'insiste beaucoup sur la différence. Et donc, il y a actuellement, j'ai entendu parler, des petits produits qui sont produits essentiellement aussi à l'Est, notamment à Bukavu ou Maniema, où on peut les utiliser, mettre dans l'eau pour rendre l'eau plus potable.
Des purifiants.
Des purifiants qui sont commercialisés de ce côté-là, que l'on peut utiliser pour mettre dans l'eau. Mais tout compte fait, ce qui est important pour une organisation ou un privé qui s'occupe du service public de l'eau, il faut qu'il s'assure que l'eau qu'il donne est potable et répond aux normes. C'est l'autocontrôle avant le contrôle de l'État.
Donc, vous avez dit d'abord, il faut des tests au niveau du laboratoire.
Oui,
pour tests, et avoir une certification.
Certification de la qualité
de la
de
qualité
son eau.
Voilà.
Voilà. Et ça, il doit le faire régulièrement.
Sinon, après combien de temps? Chaque 3 mois,
chaque
6 mois?
Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Non, 3 mois, c'est mieux pour, parce qu'on ne connaît pas qui peut jeter un polluant, au niveau de la nappe. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire attention avec l'article 121. Je n'ai pas lu, mais je vais le lire quand même pour que, les auditeurs
oui, pendant que vous retrouvez l'article, on va accueillir Emmanuel de Kananga. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Quelle est votre question par rapport à l'aménagement des forages d'eau?
Oui, je voudrais aussi savoir.
Mais veuillez vous éloigner de votre radio, Emmanuel.
Faire le forage. Tandis que nous avons beaucoup de régies dans notre pays.
Veuillez vous éloigner de votre radio ou bien vous pouvez réduire le volume de la radio. Vous allez suivre à partir de votre téléphone, Emmanuel.
Oui, ma question est la suivante.
Oui.
Oui, je voudrais savoir pourquoi tout le monde préfère faire le forage tandis que nous avons des régies des eaux dans notre pays.
Bon, d'accord. Merci pour la question, honorable.
Oui, je voudrais revenir sur l'article 115. Je lis, sans préjudice des dispositions de droit commun en matière de responsabilité civile, est puni d'une amende pénale d'un an à trois ans et d'une amende de 5 millions de francs congolais à 500 millions de francs congolais, toute personne qui fournit de l'eau hors norme de potabilité. Vous voyez, c'est très important. Si on vous applique l'article 115, je pense que vous irez en prison. Maintenant, pourquoi les gens font le forage? Je suis parmi les personnes qui ont introduit le forage dans notre pays en 1985. Parce qu'avant, tout le monde recourait aux aménagements de sources. Et moi, je suis parmi les premières personnes à avoir introduit ça. Le forage, ce n'est pas une nouvelle technique, c'est quelque chose qui a toujours existé dans le monde. Maintenant ici, pourquoi les gens font de forage? Pourquoi les gens recourent? C'est parce que pendant des années, la Régie des eaux a eu un monopole des services publics de l'eau. Et compte tenu, comme je l'ai dit, de l'expansion démographique de notre territoire, elle n'est pas à mesure de suivre la démographie galopante pour faire face à tous nos besoins.
Pour répondre aux besoins.
Pour répondre aux besoins de la population. Oui. Sachez que, selon quelques études, il faut à peu près $150 par personne de servir pour réaliser un ouvrage qui doit être géré par la Régie des eaux. Et c'est important, c'est énorme.
Et donc, aujourd'hui, le secteur a été libéralisé.
Le secteur a été libéralisé pour cette raison-là. Et donc, c'est pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable que le secteur a été libéralisé, autant qu'il a été libéralisé aussi pour l'électricité. Donc, chacun peut le faire en respectant les normes, en respectant les prescrits de la loi, de manière à ce que le plus grand nombre de personnes aient accès à l'eau potable. Je reviens pour dire à cet auditeur qu'il faut qu'il retienne que vers les années 80, même récemment, on parle de 49% de la population seulement du Congo qui a accès à l'eau potable. Et donc, vous voyez, le gap est très important.
49% seulement.
On parle de 49%. Et encore que, moi, personnellement, je mets un peu en doute ces statistiques. Parce que ces statistiques, à mon avis, ne font allusion qu'à les capacités installées. On peut avoir des capacités installées, mais non fonctionnelles. Et du coup, on ne peut pas dire que 49% de la population de l'eau ont accès à l'eau.
Alors, honorable Dominique, on est arrivé à la fin de cette émission. On retient ceci. Lorsque vous faites, tout le monde peut faire un forage chez lui, mais il faut seulement qu'il y ait des études. Il faut aller tester cette eau au laboratoire. L'OCC peut le faire et vous délivre. Il faut qu'il y ait une certification. Il faut le faire au moins chaque 3 mois. Et puis bien entretenir son puits pour éviter la pollution.
Exactement. Mais j'ajoute aussi que vous pouvez aussi faire l'analyse bactériologique à l'INRB ou dans un laboratoire d'une clinique universitaire.
Bien. Honorable Dominique Soa, administrateur délégué de l'ONG ADIR, Action pour le développement des infrastructures en milieu rural. Merci.
Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet ô combien très important.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
I'm the one for a good time call.